Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Jean-Désiré Kanyama.
Le président Félix Tshisekedi a réaménagé hier soir l'équipe gouvernementale. Jean-Michel Samalou Kondé est maintenu comme chef de l'exécutif. Quelques personnalités quittent le navire et d'autres acteurs politiques de l'Union Sacrée, parmi lesquels Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Antipas Moussa Nyamwisi, intègrent le gouvernement Samalou Kondé 2. L'armée angolaise va s'installer à Kindu dans le cadre du processus de paix à l'est de la RDC. Cette précision du gouverneur ad intérim du Maniema vient ainsi couper court aux rumeurs qui circulent au sein de la population en rapport avec cette présence annoncée des soldats angolais pour bientôt au Maniema. L'invité de ce journal est le directeur du CIFOR, le Centre international de recherche forestière. Paola Omar Serruti parle de la disparition les 20 dernières années de près de 350 000 hectares des forêts intactes du paysage de Yangambi dans la province de la Tshopo. Les détails dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le président Félix Tshisekedi a réaménagé hier soir l'équipe gouvernementale. Le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé est maintenu comme chef de l'exécutif. Si Daniel Asselo, Jean-Jacques Mbungani, Moderon Simba, Gisèle Ndaya, Serge Kondé quittent le navire, d'autres acteurs politiques de l'Union Sacrée intègrent le gouvernement Samalou Kondé 2. Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Peter Kazadi, Antipas Moussa Nyamwisi, mais aussi Claude-François Kaboulo intègrent l'équipe gouvernementale. Condensé de Blaise Makassi, rendu ici par Blaise Sindani Kambala.
Comme Gilbert Kankonde, avant lui, Daniel Asselo laisse le ministère de l'Intérieur. Le nouveau vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et Affaires Coutumières est Peter Kazadi. Jean-Pierre Bemba Gombo, président du parti politique MLC, est nommé vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. À Vital Kamerhe, son ancien directeur de cabinet, Félix Tshisekedi confie la vice-primature de l'économie nationale. Antipas Moussa Nyamwisi est le nouveau ministre de la coopération régionale, poste qu'il avait déjà occupé sous le régime de Joseph Kabila. Chouminoua Toulouka Judith remplace Christian Mwando comme ministre d'État au plan. Christophe Lutundula, Jean-Pierre Liao, Eve Bazaïba Massoudi, Rose Mutombo, Alexis Guizaro, Aimé Boji, Pius Mwabilou, François Rubota, Guy Luando gardent leur fauteuil comme vice-premier ministre et ministre d'État. Eustache Mwanzi s'occupe désormais du ministère de la décentralisation et réforme institutionnelle. Présentateur et commentateur des événements sportifs à la télévision nationale congolaise, François Kaboulo Mwana Kaboulo devient ministre des Sports. Si Nicolas Kazadi, Julien Paluku, Tony Mwaba, Mouindo Nzangi, Jean-Lucien Boussa, Patrick Mouyaya, Didier Boudimbu, Molendo Sakombi, Fabrice Puella ont été confirmés dans leur ministère, certains de leurs collègues ont changé de ministère. José Mpanda quitte la recherche scientifique pour l'agriculture. Gilbert Kabanda laisse la défense nationale à Jean-Pierre Bemba et devient le ministre de la recherche scientifique. Didier Manzenga quitte la coopération régionale pour le ministère du tourisme. Le nouveau patron du ministère de la santé publique, hygiène et prévention est Kamba Mulanda Samuel Roger. Ekilali Kombo Marc prend le contrôle du ministère des transports et le ministre de l'entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises est confié à Zinga Birianze Désiré.
Et sachez que l'intégralité de l'équipe gouvernementale Samalou Kondé 2 est à lire sur le site web de Radio Kapi, www.radiokapi.net. Programme de développement local des 145 territoires, le bureau central de coordination BESECO dit attendre la livraison par les agences locales d'exécution AEL de plus de 300 ouvrages constitués des écoles et des centres de santé. Et cela dans 2 mois. C'est ce qu'affirme Edouard Coco, directeur technique du BESECO. Hier jeudi à Kinshasa, le BESECO et les agences locales d'exécution se sont retrouvés dans un atelier pour évoquer entre autres le respect des règles des passations de marché et le problème des paiements des factures. Edouard Coco est au micro de Paul Matendo.
Nous voulions rappeler aux ALE les taguettes, le résultat que nous attendons, les PEDEL. Le problème des paiements des factures, ah, ça c'est très important, mais aussi les règles des passations de marché, c'est un rappel. Mais aussi le respect des procédures, parce qu'à la fin, il y aura mon collègue directeur d'audit interne qui interviendra pour préciser tous les éléments des retours pour vérifier la manière dont le travail a été effectué, le fonds a été consommé, si on a respecté les procédures. Ils sont nos partenaires. Avec les ALE, nous attendons 313 ouvrages.
Et suite de notre série de reportages sur les contrats miniers signés entre la RDC et un groupement d'entreprises chinoises, comme vous le savez, le président Félix Tshisekedi a demandé que cette convention soit renégociée. C'est dans ce cadre que la première réunion de la commission en charge de cette révisitation s'est tenue mercredi dernier à Kinshasa autour du directeur de cabinet du chef de l'État. Quel levier la RDC peut-elle actionner pour contraindre la partie chinoise? Des détails avec Cynthia Bachizina-Bizana.
La commission ad hoc devrait répondre à des questions qui restent sans réponse pour l'heure. Mais pour le gouvernement congolais, plus de doute. Le contrat avec les entreprises chinoises a été mal négocié. Maintenant, notre besoin est simplement de rééquilibrer les choses de manière à ce qu'ils deviennent gagnant-gagnant, déclarait le président Félix Antoine Tshisekedi en janvier dernier. L'accord prévoyait que les entreprises chinoises investissent 3,2 milliards de dollars américains dans une mine de cuivre cobalt et 3 milliards de dollars supplémentaires dans des infrastructures financées par les revenus de la mine. Aujourd'hui, le gouvernement de la RDC affirme que la Chine a débloqué moins d'un tiers des fonds destinés à ces infrastructures. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment expliquer que 15 ans après la réalisation de ces infrastructures est très faible? Où est passé le reste du financement? Après l'autopsie, viendra la renégociation qui doit en principe se faire selon les modalités prévues dans le contrat. Mais pour plusieurs experts, c'est une occasion que les autorités congolaises doivent saisir pour se remettre en question et renforcer les capacités internes de négociation pour éviter les ratés du passé.
Et puis, début mercredi dernier à Matadi, au Congo central, de la remise des matériels et équipements aux femmes micro-entrepreneurs qui ont bénéficié d'une formation à l'initiative personnelle. Ces biens constituent une subvention en nature octroyée par le gouvernement via le programme d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises. Depuis Matadi, Nana Plurus Mambour nous en dit plus.
À titre symbolique, un lot de matériel et équipements composés entre autres d'un congélateur de 370 litres, d'un stabilisateur de 2000 watts, d'un téléviseur LED de 46 pouces, d'une cuisinière et d'une friteuse a été remis à Madame Chantal Choka, opérant dans la restauration. Maître Wilson Oumba, représentant le secrétaire général au PME du Congo central, appelle les bénéficiaires à utiliser cette acquisition pour leur essor.
Chères mamans, nous fondons l'espoir que l'action conjuguée et l'utilisation efficace des équipements que vous recevez ce jour permettra d'obtenir des résultats qui vont améliorer la situation socio-économique des bénéficiaires, mais aussi de toute notre communauté.
Pour sa part, les spécialistes en planification suivi et évaluation du PADEM-PME renseignent que bien que cette subvention est gratuite, les bénéficiaires doivent en retour développer une culture fiscale. Raphaël Kakoudimande.
Les équipements qu'on est en train de donner, c'est gratuit. La seule chose que le projet vous demande, il faut payer les impôts de l'État.
L'armée angolaise va bientôt s'installer à Kindu dans le cadre du processus de paix à l'est de la RDC. Cette précision est du gouverneur ad intérim du Maniema. C'est pour couper court à toutes les rumeurs qui circulent au sein de la population en rapport avec cette présence. Le week-end dernier, une délégation de l'armée angolaise s'est en effet rendue à Kindu pour une visite de reconnaissance. Une visite qui a suscité des interrogations au sein de l'opinion. Se confiant à Radio Kapi, le gouverneur intérimaire du Maniema appelle la population au calme. Afani Idrissa Mangala est au micro de Florence Kizalunga.
L'Angola joue un grand rôle dans la pacification, dans le processus de paix à l'est du pays. Et d'ailleurs, c'est l'Angola qui pilote ce processus, qui est appuyé par la communauté tant nationale qu'internationale. Alors, comment vous vous étonnez de la présence des Angolais dans la province du Maniema? Et ça ne fait pas une semaine, l'Assemblée nationale de l'Angola avait accepté le déploiement des troupes angolaises sur le sol congolais. Alors, ces troupes se préparent pour être déployées à l'est et que Maniema fait partie des provinces de l'Est. C'est une équipe qui est venue d'abord faire des études de terrain, et après, notre avis favorable, ces troupes vont se déployer à Kin comme base arrière pour remplir sa mission régalienne lui attribuée par les deux gouvernements. Et donc, j'espère qu'avec les Angolais dans la ville de Kindu, nous espérons que nous allons plus proche de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Donc, nous devons manifester notre bonne foi envers nos frères qui sont venus nous aider, accompagner notre président de la République dans le rétablissement de la paix.
En bref, au Nord Kivu, des troupes de l'armée ougandaise seront à Goma à la fin de ce mois de mars pour compléter l'effectif de la force régionale de l'EAC déployée déjà à Goma. L'annonce a été faite hier jeudi par une délégation de l'armée ougandaise au cours d'une rencontre avec le lieutenant-général Constant Dima, gouverneur de province. Accompagné des responsables de l'état-major de la force de l'EAC, le chef de la délégation de l'UPDF a indiqué que la force ougandaise vient avec la mission de désarmer les porteurs illégaux d'armes et contribuer au retour de la paix au Nord Kivu, particulièrement dans sa zone d'intervention qui est le Rutshuru. Le colonel Mikael Walaka invite la population du Nord Kivu à prêter main forte à son armée pour le rétablissement de la paix préalable de tout développement. Rappelons que les troupes kenyanes et burundaises sont déjà sur terrain dans le Masisi et le Rutshuru. Toujours au Nord Kivu, la population de la cité de Sake et ses alentours regagne progressivement leur milieu en raison de l'accalmie relative observée depuis plus de 2 semaines dans cette région. D'après la société civile de Kamuronza, environ 80% des habitants de Sake sont déjà rentrés, sauf ceux des villages de Kingi, Malehe et Murambi, où l'on observe un retour timide car la situation n'est pas encore rassurante. En outre, les rebelles du M23 ont érigé des barrières, notamment en Toulo, Kiroluré et à Mushaki, deux axes principaux des Masisi où ces rebelles font payer environ 400 à 500 dollars par camion de marchandises et 5 à 10 dollars à chaque moto qui transporte un petit colis. Le point avec Sifa Maguru.
D'après la société civile, les personnes qui essaient de rentrer rencontrent des difficultés liées à la famine car elles n'accèdent plus à leurs champs. À cela s'ajoutent les barrières érigées par différentes forces présentes sur les axes principaux, notamment les rebelles du M23. Situation qui rend la vie difficile, déplore Léopold Mouicha, président de la société civile de Kamuronza.
Premièrement, il y a la cherté de la vie. Donc, les prix des denrées alimentaires ont doublé, voire triplé. Il s'observe une double taxation. Les véhicules et les motos puissent payer les taxes de l'État. Deuxièmement, il faut aussi payer des taxes colossaux au M23. En tout cas, cette situation, on est en train d'enrichir les M23 parce que 400 dollars, il y a des centaines de trafics. Ça fait au-delà de 40 000 par axe par semaine. Vous voyez comment la situation est confuse.
Léopold Mouicha ajoute que les activités scolaires restent également paralysées à Sake et ses environs. Plusieurs écoles ont été détruites. Les parents se demandent quel sera le sort des élèves finalistes du secondaire. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Et selon nos sources, la force régionale est déployée sur ces axes routiers où les rebelles font payer des taxes à la population, notamment à Mushaki et Kiroluré. En bref, ouverture hier jeudi à Kinshasa du séminaire national de vulgarisation des résultats de la recherche action sur l'amélioration de la prise en charge des victimes de violences sexuelles adaptée au contexte socioculturel de la Tchopo. Un programme de lutte contre les violences basé sur le genre qui rentre dans le cadre de la coopération bilatérale RDC-Belgique. Plus de 7 prisonniers sont morts à la prison centrale de Bukavu, au sud Kivu, en l'espace de 2 semaines. Le cadre de concertation de la société civile du sud Kivu, qui dénonce cette situation, attribue ces décès au manque de nourriture pour détenus dans cet établissement pénitentiaire. Les directeurs de cette prison parlent plutôt de 5 décès suite à des maladies. Notre reporter qui s'est rendu sur place a constaté que 2 autres détenus sont entre la vie et la mort. Jean Kassami pour les détails.
Le nombre de morts diffère selon les sources, mais aussi rien ne filtre clairement sur la cause réelle des décès à la prison centrale de Bukavu. Le président du cadre de concertation de la société civile soutient l'hypothèse de la faim qui tue les détenus. Zozo Sakali indexe le gouvernement qui, selon lui, a failli à son devoir de nourrir les prisonniers.
Les morts qu'on est en train de compter, parmi eux, certains n'ont pas encore accédé même à leur juge naturel. Nous avons même vérifié les stocks de médicaments et même les stocks stocks de nourriture. Il n'y a pas de la nourriture là-dedans. Il y a un problème de la famine.
Nous nous sommes rendus à la prison centrale de Bukavu pour nous enquérir de la situation. Là, un camion remorque était en train de décharger des bois de chauffe, visiblement ramassé à la hâte. Pour le directeur de cette institution, les prisonniers sont nourris régulièrement. Ilunga Dilamuna Nkonde.
Il y a quatre qui sont venus de Kavumu et l'autre du parquet de grande instance de Bukavu. Dans la plupart des décès, sont des maladies un peu brusques, pas la famine. Parce que la manger, il y en avait, quoique maintenant les dépôts deviennent vides.
Prévue pour 500 personnes, cette prison héberge aujourd'hui plus de 2000 pensionnaires. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Actualité internationale.
À Madagascar, la haute cour constitutionnelle est accusée par les parlementaires. L'instance a jugé que la présidente de l'Assemblée nationale avait eu raison de considérer irrécevable la motion de censure déposée contre le gouvernement par des parlementaires. Ces sujets sont outrés. Et puis les autorités algériennes démantèlent un réseau de passeurs des migrants vers l'Europe. Ces réseaux comptaient 15 membres, 9 Syriens et 6 Algériens. Tous ont été interpellés par le service central de lutte contre le crime, organisé et présenté mercredi dernier devant la justice. L'enquête a duré, selon les autorités, près de 5 mois.
L'invité.
L'invité de ce journal est le directeur de CIFOR, le Centre international de recherche forestière. Paola Omar Serruti parle de la disparition les 20 dernières années de près de 350 000 hectares des forêts intactes du paysage Yangambi, comprenant Kisangani, Bengamisa, Isangi, Yanongé et d'autres villes et villages dans la province de la Tchopo. Paola Omar Serruti s'entretient avec Billy Ivan Lutumba.
Paola Serruti, bonjour.
Bonjour.
Ce 21 mars, l'humanité commémore la journée des forêts. Le CIFOR ICRAF tire pratiquement la sonnette d'alarme au sujet de la dégradation des forêts. De quoi s'agit-il exactement?
Et comme le mot le dit, donc, il s'agit de la déforestation, donc la perte des forêts primaires, et dégradation, donc la dégradation d'une forêt qui n'est plus à même de nous donner les mêmes services qu'elle nous donnait avant. Sur les derniers 20 ans, le paysage de Yangambi, nous restons avec environ 1 100 000 hectares de forêts, et il faut réfléchir à cette tendance qui est déjà en diminution depuis 4-5 ans. Depuis 2017, cette tendance est à la baisse, donc nous perdons moins de forêts aujourd'hui qu'on ne perdait en 2015, par exemple, mais il faut continuer avec les actions et avec la participation de tout le monde pour qu'on arrive à une augmentation de la superficie forestière.
Votre organisation bénéficie de l'appui de l'Union européenne pour notamment promouvoir la protection de cette forêt dans la Tchopo. Que faites-vous exactement pour protéger la forêt et à quoi sert cet apport?
C'est correct. L'Union européenne, comme pour l'instant un des plus grands bailleurs, mais aussi plusieurs d'autres bailleurs ou partenaires techniques et financiers. La chose plus importante, c'est de dire aussi que ce n'est pas juste une protection, comme dans le sens typique du terme, les gens peuvent comprendre, par exemple, quand vous dites il faut protéger la forêt, les gens s'imaginent une barrière à mettre autour d'une forêt. Non, ce n'est plus ça, ça n'a pas marché dans le passé et je ne pense pas que c'est la solution pour le futur. Moi, ce qui dit protection dit gestion, donc gestion de la forêt pour et avec les personnes qui vivent de cette forêt, qui habitent dans ces forêts ou dans les alentours et qui conduisent des activités. Donc il faut juste comprendre quelles sont ces activités, comment ces activités peuvent être améliorées au fait d'une façon qui est moins destructrice de la forêt. Il y a plusieurs exemples, vous pouvez vous pencher sur une filière, ça pourrait être la filière Makala. Donc si vous dites Makala, vous dites couper les arbres, faire la meule, donc produire le charbon, le vendre et les consommer en ville. Vous voyez, c'est toute une filière sur laquelle il faut se pencher à différents niveaux pour essayer de la rendre moins destructrice de la forêt. Et il y a plusieurs opportunités pour le faire. Il y a beaucoup d'actions qui peuvent être faites. Elles doivent en tout cas ne pas être imposées ou amenées de l'extérieur, mais gérées, décidées et mises en œuvre avec les populations locales, avec les personnes et les institutions qui aujourd'hui font partie de cette tendance dont nous avons discuté avant.
L'agriculture sur broullis est l'un des facteurs à l'origine de cette déforestation et cette pratique est ancrée dans les habitudes d'une communauté locale depuis plusieurs années. Vous le soulignez dans votre communiqué. Comment comptez-vous renverser la tendance?
Pour moi, le point numéro un, c'est de se rendre compte de quels sont les facteurs, quelles sont les contraintes que les ménages, les familles, les villages rencontrent dans le changement des modèles. Maintenant, la clé pour moi est la proximité. La proximité avec l'agriculteur, avec la famille, avec le village, pour tester ces modèles sur le champ. Il y a des modèles que nous appelons des fermes pilotes, on a des modèles que nous appelons des champs de démonstration ou des fermes écoles paysans. Et tous ces modèles demandent vraiment une proximité avec l'agriculteur.
Un défi pour tout le monde dans cet engagement. Qu'attendez-vous de la population?
Pour moi, la question, c'est comment nous pouvons appliquer des modèles améliorés qui ont un impact beaucoup moins négatif sur la forêt et qui arrivent à mieux gérer les champs, les superficies agricoles du paysage de Yangambi et d'ailleurs, si possible, ensemble avec les agriculteurs, les ménages, les populations. C'est eux qui sont déjà en train de faire des innovations, c'est eux qui se rendent compte que le modèle actuel n'est pas durable, que le calendrier agricole n'est plus respecté comme il était régulièrement dans le passé, et ainsi de suite. Donc, c'est grâce à cet esprit d'innovation qui déjà existe que nous devons avoir une vision commune avec les agriculteurs et essayer de tester ces modèles parce qu'ils vont changer.
Paolo Cerruti, merci.
Notre invité, Paolo Omar Cerruti, directeur du Centre international de recherche forestière dans la province de la Tchopo, s'entretenait à Kisangani avec Billy Ivan Lutumba. Fin de ce journal. Merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.